enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alors, on va continuer ce soir à des enseignements sur la croix. La croix, la croix, la croix. Amen. C'est un temps particulier. On va parler de la croix, de la croix, de la croix, de la croix, de la croix. Donc on va voir plein de choses sur la croix dans les prochaines semaines et certainement dans les prochains mois. Parce que ce que je veux, c'est vraiment vous aider par rapport à ça. De telle façon que vous puissiez vraiment avoir, je dirais, ces fondations qui sont indispensables dans votre vie. À propos de la croix du calvaire. Parce que si on n'a pas de bonne fondation dans la croix du calvaire,
cela
nous handicape d'une manière ou d'une autre dans notre vie spirituelle. La croix, comme je vous le disais ces dernières semaines, c'est vraiment l'événement central de l'histoire de l'humanité. C'est ce qui est le plus important. Plus important de tout ce qui s'est passé avant et plus important de tout ce qui se passera après. L'événement de la croix, c'est quelque chose d'exceptionnel.
Il
y a beaucoup de paroles qui nous en parlent. Beaucoup de versets que nous pouvons étudier. Et ce soir, on va jeter un petit coup d'œil d'abord dans Jean chapitre 10. Rappelez-vous que quand Paul va venir vers les Corinthiens, il va dire une chose. J'ai rien voulu savoir d'autre que quoi? Que Christ est Christ crucifié. Christ est Christ crucifié.
Christ est
la fondation de notre vie chrétienne,
la fondation
du christianisme. Christ
Christ
sur la croix. De tout en découle. Sans croix, il n'y a rien. Sans croix, il n'y a rien.
Il
y a de la déchéance. La dernière fois, je vous ai partagé un certain nombre de choses. Et ce soir, on va en reprendre certaines. Et regardons dans Jean chapitre 10. Rappelez-vous que l'événement de la croix n'a pas été un événement qui a été voulu et déclenché par l'homme. Mais la croix a été voulu et déclenché par Dieu lui-même. La croix n'est pas le plan de l'homme. Que Jésus soit cloué sur une croix, ce n'est pas le plan de l'homme. Ça n'a jamais été. Ça s'est produit comme cela parce que Dieu voulait que ça se produise comme cela. Parce que Dieu avait un problème sérieux avec l'homme et qu'il fallait qu'il règle. Je vous rappelle que quand nous regardons ce que Jésus, Dieu le Fils, dans la chair est venu faire sur cette terre, il y a deux choses importantes à retenir. La première, c'est l'exemple qu'il nous a donné en enseignant, en prêchant, en chassant les démons, en guérissant les malades, en faisant des miracles de provision, d'une manière générale, en manifestant le royaume de Dieu. Ça, c'est ce qu'on voit dans les évangiles. Mais ce n'est pas la finalité. Bien des fois, on a voulu attraper Christ, le faire mourir, le lapider, s'en emparer. Mais ça n'a jamais réussi. Pourquoi? Parce que son heure n'était pas encore venue. Parce que l'heure marquée par le Père, où Dieu le Fils deviendrait un sacrifice, cette heure n'avait pas sonné et personne ne pouvait déclencher cette heure sauf Dieu lui-même en utilisant ceux qui haïssaient Jésus. Mais ça n'a pas été une heure déclenchée par l'homme. Jésus n'a pas été un martyr. Un martyr, c'est quelqu'un qui meurt pour une cause. Quelqu'un qu'on arrive à attraper finalement parce que il fait des remous, soit politiques, soit sociaux, soit tout ce que vous voulez, idéologiques ou quoi que ce soit. Jésus dérangé, on voulait l'éliminer. Les hommes voulaient l'éliminer, en tout cas certaines personnes. Les puissances des ténèbres voulaient s'en débarrasser aussi. Mais Jésus va faire une déclaration dans Jean chapitre 10 qui est importante. Il va dire la chose suivante. Jean 10, nous savons que c'est le bon berger, tout un enseignement à propos de Jésus qui est le bon berger. Et verset 17, après avoir fait tout cet enseignement sur le berger et les brebis, Jésus va nous montrer quelque chose de très important. Quelque chose de fondamental. Il va dire, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Regardez bien ce que la Bible dit ici. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus a reçu l'ordre. Il a reçu un ordre et il nous le dit ici. Quand tu t'incarneras, tu as le pouvoir. Littéralement ici, le mot pouvoir, c'est le mot grec exousia, autorité légale que nous avons déjà étudié bien des fois. La permission de faire ceci. Jésus dit ici, personne ne m'ôte. Personne ne m'ôte ma vie. Non, pourquoi? Parce que personne ne pouvait avoir le droit légal d'enlever la vie de Jésus. Je vous dis, regardez bien dans les évangiles. Des gens ont voulu attenter plusieurs fois à la vie de Jésus. Relisez bien, chaque fois que vous avez cela, repensez à ce que je suis en train de vous dire. Mais à chaque fois, les Juifs n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi parce que obligatoirement, il y avait une barrière d'ange. Parce que Jésus était absolument intouchable. Rappelez-vous d'une chose dans le jardin de Gethsémané. Lorsque les disciples ont voulu défendre Jésus, Jésus a dit, mais moi je peux appeler des légions d'anges.
Et
ils pouvaient le faire. Mais entre temps, nous allons voir ce qui s'est passé. Où Jésus savait que son heure avait sonné. Mais là, Jésus le dit bien. J'ai le pouvoir, l'autorité légale de donner ma vie. Je peux la donner ou je peux ne pas la donner. Et bien sûr, Jésus était là pour donner aussi sa vie. Mais c'était son choix. La croix a été le choix de Christ. La croix n'a pas été le choix de l'homme. L'homme n'avait rien compris, ne savait rien à propos de ce qui allait se passer réellement à la croix du calvaire. La croix était l'heure de Dieu, pour Dieu le Fils qui était en chair et qui allait mourir pour l'humanité. La croix n'a pas été quelque chose qui a été fait par l'homme. Ça, je tiens à ce que vous le compreniez vraiment. Parce que ça fait partie d'un des grands mystères qui nous est révélé dans la parole de Dieu et qui nous montre combien Jésus pourra prendre notre place. Pourquoi est-ce que Jésus avait l'autorité légale de donner sa vie ou de ne pas la donner. De donner sa vie et de la reprendre. Résurrection, reprendre. Regardons maintenant un parallèle, 1 Corinthiens 15, 56. Il est dit la chose suivante, une loi spirituelle ici. L'aiguillon de la mort, 15, 56. C'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi.
kandi ubushobozi bw'ivyaha ni byagezwe.
L'aiguillon de la mort c'est le péché.
Ngo ivyaha nibwo bushobozi ngo ubushobozi uruboyi bw'urupfu ni ivyaha.
Qu'est-ce que ce morceau de verset veut dire?
Bega iri jambo rigomba gusigura iki?
Il peut pas y avoir de mort
ngo ntihashobora kubaho urupfu
s'il y a pas de péché.
Iyo hatabanje kubaho icyaha.
Il peut pas y avoir de mort
nta rupfu gwabaho
s'il y a pas de péché.
Nimba tacha kibanje kubaho.
2 Corinthiens 5.
Abikono ba kabiri gatano.
Verset 21.
Umurongo wa 21.
Je veux que vous compreniez certaines choses sur ce que Jésus a réellement fait pour vous.
Ndagomba mugire cyo mutahure by'ukuri kubijanye n'ingene Yesu yabikoze.
Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché.
Baravuga ngo umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha.
Nous savons que Jésus
turazineza ko Yesu
n'a jamais péché.
Atigeze akora icyaha.
Donc la mort
bisigura ngo urupfu
ne pouvait pas avoir un aiguillon pour le piquer.
Nigora gushobora kuronka ubwo ubwayi bwo kumukora
pour le prendre légalement.
Maze ngo urupfu rumutware byemewe n'amategeko.
C'est pour ça que tous les plans sataniques.
Nico gitume migambi yose ya Satan.
Humain.
Yabana baba.
Ou quoi que ce soit d'autre.
Change ivyo ari vyo byose
bi. Ne pouvait pas toucher le second Adam.
Bitashobora gukora kuri Adam wa kabiri.
C'est pour ça que Jésus.
Nico gituma Yesu.
Même quand on a essayé de le lapider une fois.
Nigaba bagerageje kumutera amabuye rimwe.
N'a pas été touché.
Nigaza kogwa.
Jésus était intouchable vis-à-vis de la mort.
Yesu ntiyashikirwa n'urupfu.
Il n'était pas possible que la mort le prenne par elle-même.
Nivyara gushoboka ko urupfu rumwitwarira gonya n'ubwago.
Sans que lui, Christ.
Kandi wonyene ubwiwe Kristo.
Décide.
Adahisemo.
D'aller à la mort.
Kugenda mu rupfu.
Il était intouchable.
Ntiyari gushobora gushikirwa.
Satan n'arrivait pas à le toucher.
Satan ntiyashobora kumushikira.
Il n'arrivait pas à le toucher.
Ntiyashobora kumushikira.
La seule façon
uburyo bwonyine
où Jésus pouvait être touché.
Yesu yari gushobora gutwarwa n'icyaha.
C'est si il acceptait d'être touché
par la mort. Gusa wonyine abyiyemereye icyaha kikamutwara.
Et alors là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire.
Maze ngaho hari ikintu cyacha gikoreka.
C'est là où il va devenir notre substitut.
Niho yabaye uja mu kibanza ufata ikibanza
cyacha. C'est là où il va prendre notre place.
Niho yafashe ikibanza cyacha.
Mais comprenez d'abord ce principe.
Ariko banza utahure kwanze
itegeko. La mort n'avait pas de droit légal de toucher Christ.
Urupfu ntigwari gushobora kwemererwa gukora kuri Kristo.
C'est pour ça je vous dis bien des fois vous le verrez dans les évangiles.
Nico makenshi baravuga mu ijambo ry'Imana.
Les gens ont essayé de toucher à Christ.
Mu butumwa bwiza harabagomba kwica Kristo.
Dans le jardin de Gethsemane, il a fait cette déclaration aussi.
Gethsemane niho yatwiga aravuga ikintu kimwe.
Et je peux appeler une douzaine de légions d'anges.
Aravuga ati ushobora guhamagara abamarayika igitero cyawe.
T'en fais pas.
Ati ntugire ikibazo.
Pierre ne comprenait pas.
Igitero cyawe.
T'en fais pas.
Ati ntugire ikibazo.
Pierre ne comprenait pas.
Petro
ni les autres disciples ne comprenaient pas.
N'abandi bigishwa
ni babitabo. Personne ne comprenait.
Nta numwe yatawuri ibyo bintu.
Parce que Jésus de son de sa propre autorité.
Kuko Yesu yabikoze mu bugombe
bwiwe. Jésus avait autorité sur sa vie.
Yarafise ububasha ku buzima bwiwe.
Par rapport à la mort.
Bihwanye n'urupfu.
Ce qu'aucun être humain n'avait.
Ibyo navyo nta numwe mu bana b'abantu yari gushobora kubikora.
Jésus avait une autorité sur sa propre vie.
Yesu yarafise ububasha ku buzima bwiwe.
Jésus s'il ne s'était pas donné aujourd'hui.
Iyo ataza kwitanga Yesu uyu munsi.
Bah regardez ce qui serait passé. Si c'était pas donné à l'époque, regardez ce qui serait passé.
On va
regarder ensemble, Jean, chapitre 12. Je voudrais que vous découvriez plein de paroles de l'Écriture que vous avez certainement lues. Mais que d'un seul coup, qui vont s'ouvrir, comme ça, vous allez
les
comprendre. C'est ça que je vais essayer de faire. Je
ne
veux pas faire un enseignement trop structuré.
Mais
je vais prendre beaucoup, beaucoup de vérité de la parole de Dieu. Pour construire quelque chose d'immense en vous. Pour que vous puissiez comprendre c'est, comment dire, c'est vraiment la croix, les significations réelles de la croix et toutes ses implications, c'est extraordinaire.
Pour
qu'on puisse entrer en profondeur ensemble dans la croix. Parce qu'on sait, on dit souvent Christ est mort pour nos péchés, gloire à Dieu,
Jésus
a versé son sang pour mes péchés. Bon, c'est vrai, par ses meurtrissures je suis guéri, etc. etc. Oui. Tout ça c'est vrai, on est racheté de la malédiction, tout ça. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose d'extraordinaire. Des lois spirituelles qui se sont mises en action en notre faveur. Et quand on commence à les comprendre, comment c'est extraordinaire, l'évangile s'ouvre. Moi plus je médite sur ce sujet, plus les choses comme ça. Les versets me sautent à la figure quasiment. Regardons ensemble, 12, verset 23. 12:23, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et il ne meurt, il reste seul.
Yesu arabishura ati giye kirageze cy'umwana w'umuntu aho umwana w'umuntu ahabwa ubwiza bwiwe. Nukuri nukuri ndababwire, iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe kaguma uko kari konyene.
Qu'est-ce que Jésus dit ici?
Mbega Yesu ngahavuga iki?
Si le grain de blé, il se compare à un grain de blé à ce moment-là.
S'il ne
meurt, une image toute simple. Si je prends un grain de blé,
et là
il dit pas un, il dit le. La semence. Parce que la semence était
Christ.
La semence a été la vie de Christ. Si tu es aujourd'hui sauvé, c'est parce qu'un jour, il y a une semence qui a été semée. La vie de
Christ.
C'est pour ça qu'aujourd'hui tu es sauvé. Jésus dit ici, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Il parlait de lui ici. Si je ne meurs pas, si je ne meurs pas, je serai le seul à être fils de Dieu. Il
n'y
en aura pas d'autre.
Si
je ne meurs pas, je serai le seul à rester fils de Dieu. Quel amour! Il voulait remplir le ciel.
Alléluia.
Et partager son héritage. Mais s'il n'acceptait pas de mourir, s'il n'acceptait pas de mourir, frères et sœurs, eh bien, il serait resté tout seul. Christ serait resté seul. Et le ciel aurait été vide. Jésus parle, il parle d'une façon très simple. C'est pas compliqué ce qu'il dit ici. Il y a une puissante vérité derrière. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de
fruits.
Nous sommes un fruit. Nous sommes un fruit de ce grain de blé. Des centaines de millions d'êtres humains sont des fruits de ce grain de blé qui est Jésus qui est mort. Parce qu'il est mort. Il n'est pas resté seul. Il a fallu qu'il donne sa vie
pour qu'il
y ait une production. Autour de ce moment décisif où Jésus allait se livrer, il y a plein de pression sur lui. À Jérusalem, ça bouge dans tous les sens. Vous savez, il y a des gens qui veulent être dans le ministère, qui sont là, qui prient, qui disent: Seigneur, moi je veux un grand ministère. Seigneur, moi je me vois en train de se servir devant des foules. Seigneur, moi je veux guérir les malades en masse. Mais si tu savais les pressions qu'il y a dans un ministère, étudie un peu juste avant que Jésus se donne à la croix. Il y a des pressions de partout. Des gens qui le reconnaissent comme le Christ. D'autres qui ne le reconnaissent pas. Des gens qui se posent des questions. Qui c'est ce gars-là finalement? Mais qui c'est? Ça fait plusieurs années là, qu'il est là. Il a retourné Israël. Il y a des gens qui se disaient: mais qui c'est ce type finalement? Il y en avait qui disaient: c'est le fils de Dieu. L'autre qui disait: c'est le Messie. Toutes sortes de choses qui sortaient. L'autre qui disait: non, c'est un imposteur. Mais on voit constamment, on voit des gens ne pas savoir où se placer précisément. Ils
ne
comprennent pas. Certains ont vécu un rêve extraordinaire. Les disciples, ils devaient être dans un rêve. Le jour même où Pierre a commencé cette pêche miraculeuse, jusqu'au moment où Jésus s'est fait arrêter, Pierre était dans un rêve extraordinaire.
ibitangaza bidasanzwe
sa petite vie misérable
bwa buzima bwe busanzwe cyane
bubayabaye inutile
burambira atacho bumaze
d'un seul coup a été retourné comme ça
mukanya gato buhinduka gutya.
Ils se sont retrouvés tous dans un rêve extraordinaire. Mais plus on s'approche de l'heure décisive, non pas où l'homme décide que c'est l'heure décisive, mais l'heure divine où Dieu le Fils puisse se donner sur cette croix en tant que sacrifice. On voit qu'il y a des pressions, des pressions spirituelles gigantesques, gigantesques. Et le Père va fortifier Christ. Regardons la suite de ce passage. Il dit verset 27. Maintenant mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure ou délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour ça que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix alors vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau. La foule qui se tenait là, parce qu'il y avait une foule autour de Jésus. Des gens qui aimaient le Seigneur. Des gens qui haïssaient le Seigneur. Des gens qui étaient des curieux, des gens qui ne savaient pas trop pourquoi ils étaient
là.
Il est dit la foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'est le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole et dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous.
Verset 37,
parce que je ne peux pas tout commenter, mais vraiment on peut entrer dans ces textes, c'est absolument fabuleux.
Verset 37.
Et regardez bien ce que l'Écriture va dire ici. Regardez bien ce que l'Écriture va dire. Rappelez-vous, Jésus, Dieu le Fils dans la chair, est venu en Israël. Il a parcouru toutes les villes et tous les villages. Pendant 3 ans et demi, le Seigneur n'a pas arrêté un jour. Il n'a pas pris un jour de congé. Il a été d'endroit en endroit. Il prêchait la bonne nouvelle. Il guérissait les malades. Il a annoncé partout
Agenda,
ce que le Père lui avait donné d'annoncer. Il a été partout. Mais regardez verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole dite par le prophète Ésaïe. Seigneur, qui a cru ce que nous avons fait entendre? Et à qui le bras du Seigneur a été révélé? Ésaïe 53, bien sûr. Aussi ne pouvaient-ils pas croire, parce qu'Ésaïe en dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient leurs yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et c'est ce que dit Ésaïe lorsqu'il vit la gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas pour ne pas être exclus de la synagogue, car ils aimèrent plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Donc on voit ici toutes ces pressions qu'il y a. Les gens sont là. Et la plupart sont incrédules encore. Et la Bible avait prophétisé ces choses, nous le savons. Que les Juifs rejetteraient le Messie. Ils vont rejeter le Messie. Ce qui va donner l'ouverture à qui? Aux païens, c'est-à-dire à nous. De pouvoir recevoir la grâce, frères et sœurs. Parce que les Juifs ont rejeté le Messie. En premier lieu. Alors après. Et là, c'était leur chance. Pendant 3 ans et demi. Dieu a donné la chance aux Juifs.
A
accompli plus de 300 prophéties messianiques qu'il y avait dans l'Ancien Testament.
Ils
vont être témoins avec leurs yeux. Plus de 300 prophéties vont être réalisées lorsque Jésus, à partir du moment où Jésus va naître,
jusqu'au
moment où il va ressusciter,
plus de 300
prophéties.
Dieu
avait donné la chance à Israël de pouvoir recevoir le Messie. Donc on voit vraiment qu'avant la croix, c'est clair, les dés ont été joués, les cartes ont été sorties, tout était clair, Dieu avait tout fait pour que les Juifs soient les premiers, parce qu'ils avaient les promesses. Ils ont tout vu. Ils ont tout vu. Mais ils ont rejeté le Messie. C'est eux-mêmes.
Hein.
Eux-mêmes qui vont planifier la mort du Messie. Et qui seront les instruments du plus grand des miracles.
Les
plus grands des miracles qui va se passer dans l'histoire de l'humanité. Mais relisez bien, je vous dis, ces passages-là, c'est vraiment intéressant. Il y a tout un tas de choses qui tournent autour de cette décision. Des pressions, le Père parle au Seigneur. On voit toutes sortes de choses qui se passent. Des Juifs qui essayaient juste un peu avant d'attenter à la vie de Christ. Vous pourrez lire ça à la fin du chapitre 10, on va jeter juste un petit coup d'œil. Encore dans Jean. Il y a tout un tas de discussions. Jésus arrive quelques mois avant la crucifixion. Et alors il y a toute une discussion entre les Juifs et lui. Il est dit verset 31. Après que Jésus ait fait tout un tas de déclarations, les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Verset 31. Jésus reprit et leur dit : Je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous ? Les Juifs répondirent : Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit : N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit : Vous êtes des dieux. Si elle appelait Dieu à qui la parole de Dieu s'était adressée, et l'écriture ne peut être abolie, à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes parce qu'il a dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais quand même, vous ne me croirez pas. Croyez à ces œuvres, afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et moi dans le Père. Il cherchait, regardez bien verset 39, encore à l'arrêter, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai, et là beaucoup crurent en lui. Vous voyez, ici encore, il échappe de leurs mains. Je peux vous prendre exemple sur exemple sur exemple dans l'écriture. Mais ce soir, en partie, j'aimerais voir un sujet important qui s'appelle le sujet de la réconciliation et du besoin de l'homme dans ce qu'on appelle la justification. Et après, dans les enseignements suivants, on continuera à aller dans les événements de la croix. L'homme, depuis 4000 ans, avait un problème sérieux avec Dieu. Un problème très sérieux avec Dieu. C'était le problème du péché. Lorsque vous regardez l'histoire de l'humanité, on voit que le problème du péché est un immense problème pour l'homme par rapport à Dieu. Adam et Ève n'avaient pas ce problème-là au départ. Ils étaient parfaits. Donc le péché n'existait pas. Comme le péché n'existait pas, ils étaient en paix parfaite avec Dieu. Ils avaient un accès à la présence de Dieu qui était parfait. Ils voyaient Dieu face à face sans aucun problème. Nous savons qu'ils voyaient le monde spirituel. Ils voyaient le monde naturel, le monde spirituel.
Il n'y a absolument aucun problème.
Lorsqu'ils pêchent, le péché va créer un immense problème dans le monde. Et Dieu pourvoit quelque chose. Il pourvoit à une, je dirais, une loi spirituelle qui va permettre une certaine approche de sa présence et une certaine couverture de sa colère vis-à-vis de l'homme. Le Dieu trois fois saint ne peut pas être approché par l'homme pécheur. Ça, c'est une loi spirituelle. L'homme pécheur est destitué de la présence de Dieu. L'homme pécheur appartient à l'ennemi de Dieu. L'homme pécheur est séparé de Dieu. Et la Bible nous montre clairement que ce qui sépare l'homme de Dieu, c'est son péché, sa nature de péché. Et ce problème était un immense problème. Parce que Dieu voyait bien les hommes se retrouver dans des conditions terribles, alors que certains désiraient marcher avec lui. D'autres ne désiraient pas marcher avec lui. Et avant que Jésus ne vienne, les hommes avaient un sérieux problème. Et ça a toujours affecté le cœur de Dieu. Parmi les premiers hommes qui ont marché sur cette terre, certains ont voulu marcher avec Dieu. D'autres n'ont pas voulu marcher avec Dieu. Adam et Ève ont fait vraiment une trahison gigantesque. Ont trahi Dieu. Ils ont vraiment tout mis par terre. Ils ont vraiment fait tomber le plan de Dieu pour l'humanité. Et ils ont mis toute la race humaine sous une malédiction, la malédiction de la chute. Après leur chute, Adam et Ève désiraient marcher encore avec Dieu. Mais ils ont été chassés de la présence de Dieu. Ils n'avaient plus accès à la présence de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est dit qu'ils ont été chassés du jardin. Ils ne pouvaient plus avoir accès à la vie de Dieu, à cet arbre de vie, entre autres, qui leur donnait ses forces spirituelles régulièrement. Et il est clair qu'à partir de ce moment-là, quand ils ont été chassés, qu'ils sont retombés dans le naturel et qu'ils ne voyaient plus le monde spirituel, bon, ils ont l'air d'avoir voulu marcher avec Dieu. Et pourtant, ils avaient une certaine connaissance de Dieu avant leur chute. Mais on voit déjà que dans leurs deux enfants, leurs deux premiers enfants, il y en a un qui veut marcher avec Dieu et l'autre qui ne veut pas marcher avec Dieu. Nous connaissons tous l'histoire de Abel et de Caïn. Et cette histoire est vraiment une histoire dramatique. Des deux enfants d'Adam et Ève. Des deux premiers. Et l'un devient meurtrier. Et quand vous continuez à lire l'histoire de la Genèse au début, vous vous apercevez que le problème de péché est là, c'est clair. Mais au milieu de ces pécheurs, il y a un certain nombre de personnes qui désirent marcher avec Dieu. C'est là où on va trouver des gens comme Noé. C'est là où on va trouver des gens comme Abraham. Des gens comme Enoch. Mais peu parmi les êtres humains veulent marcher avec Dieu. Et dans leur marche avec Dieu, ils sont limités. Ils sont extrêmement limités. Beaucoup plus limités que ce que nous étions nous.
Pourquoi ?
Parce qu'ils sont pécheurs. Et Dieu avait un problème par rapport à ça. Parce que Dieu avait apporté des solutions, mais des solutions qui n'étaient pas complètes. L'homme pécheur pouvait s'approcher de Dieu avec des sacrifices. Des animaux étaient tués, le sang coulait, et le péché était couvert. En fait, la colère de Dieu vis-à-vis de l'homme, entre guillemets, glissait sur ceux qui faisaient des sacrifices et qui invoquaient Dieu et qui essayaient de marcher avec Dieu. Ces sacrifices, en fait, couvraient leurs péchés. Mais ils n'effaçaient pas leurs péchés. Ces sacrifices couvraient leurs péchés. Permettaient à Dieu d'agir dans une certaine limite dans leur vie. Mais c'était complètement limité. Et c'était un problème. Quand ceux qui marchaient avec Dieu mouraient, ils n'allaient pas au ciel. Le ciel a été vide jusqu'à la résurrection glorieuse de Christ. Ces gens allaient dans un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham. Ceux qui ne servaient pas Dieu, qui ne voulaient pas servir Dieu, aller en enfer. Ça n'a jamais changé. Par contre, ceux qui marchaient avec Dieu et qui désiraient marcher avec Dieu, mais qui ne pouvaient pas naître de nouveau, qui ne pouvaient pas être réconciliés avec Dieu, qui ne pouvaient pas être justifiés. Ce sont des termes que nous voyons apparaître dans le Nouveau Testament avec la Nouvelle Alliance. Alors ce soir, on va regarder un peu, parce qu'on
n'aura
pas le temps de tout faire, cet aspect de réconciliation. Regardons, il y a plusieurs textes. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, il nous est parlé de la réconciliation. À partir du verset 18, on peut lire à partir du verset 17, un verset qu'on connaît très bien, où il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu.
Bishasha ariko ivyo byose biva ku mana yatwiyujuje ko ku bwa Kristo ikaduha igikorwa cyo kugabura umwuzuzo niko kuvuga yuko Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mwisi ntiyabaharura ko ibicumuro byabo kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuzo.
Donc en fait ici on parle de réconciliation.
Hano baravuga ngo kuzura n'Imana.
La réconciliation c'est quoi? C'est arriver à mettre deux parties qui sont ennemies, arriver à les mettre en paix. Et la réconciliation implique souvent un médiateur. C'est-à-dire une personne qui va voir, hein, on est dans un pays où on parle de réconciliation. Mais celle-là, elle est humaine. Nous, la Bible nous parle d'une réconciliation entre Dieu et l'homme. Alors, il y a plusieurs passages qui nous parlent de la réconciliation dans la parole de Dieu. Ici, on nous parle du ministère de réconciliation. C'est-à-dire du service qui, en fait, est alloué à ceux qui prêchent, de pouvoir parler de cette réconciliation, de pouvoir proclamer cette réconciliation entre Dieu et l'homme. Ce terme, vous ne le trouverez jamais dans l'Ancien Testament. Vous ne pourrez pas trouver ce terme dans l'Ancien Testament parce qu'il n'était pas possible que Dieu soit réconcilié avec l'homme dans l'Ancien Testament. Le Dieu trois fois saint et l'homme pécheur ne pouvaient pas être réconciliés avec des animaux qui étaient sacrifiés. Par contre, contre, Dieu a dû pourvoir un sacrifice ultime.
Ariko Imana icyo yakoze yazanye ikimazi kisumba ibindi bimaze
byose. Un sacrifice parfait.
Ikimazi gitunganye.
Qui allait satisfaire les exigences de Dieu.
Cyo cyagira kize gikwije ibyangombwa Imana yasaba.
Dieu avait besoin de certaines exigences.
Imana ari kene ibintu bimwe bimwe yasaba.
Parce que le problème de l'homme, c'est son péché et sa nature
pécheresse.
Son péché, parce que Dieu ne peut pas accepter que quelqu'un qui a du péché puisse s'approcher de lui. Sa nature de péché, parce qu'à partir du moment où cette nature est encore là, il n'y a pas un pied d'égalité sur lequel l'homme peut avoir une relation avec Dieu. Donc pendant 4000 ans, ça a été le souci de Dieu de voir des hommes qui venaient sur cette terre, qui naissaient sur cette terre, mais qui ne pouvaient pas avoir une relation restaurée. Dans la réconciliation, il y a un aspect de restauration. C'est ce que Dieu va faire en Christ. C'est ce que Dieu va réaliser en Christ. Mais c'est lui qui va être obligé de tout faire. Vous savez, souvent, quand des gens veulent se réconcilier, il y en a un qui vient voir l'autre, qui lui dit, écoute, je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait. Et l'autre partie dit la même chose en général. Et on négocie, on se met d'accord. Et lorsqu'on a trouvé un terrain d'entente, alors on dit, ok, bon, toi maintenant, tu as droit à ça, mais tu n'as le droit d'aller jusque-là seulement. Et moi aussi, j'aurais le droit de faire ça et ça, mais je ne pourrais pas dépasser telle limite. Donc, chaque partie fait quelque chose.
Fait
un effort, produit un certain nombre de choses, concède un certain nombre de droits. Mais là, ça n'a pas été le cas. Là, c'est Dieu qui est venu tout faire. Qui est venu tout faire pour que la réconciliation soit possible entre lui et l'homme. Il a tout fait. C'est ce qui fait toute la différence. Un passage qui nous parle de la réconciliation, c'est le passage de Romains chapitre 5. Alors, Romains, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est un peu toujours difficile de résumer certaines choses dans l'Épître aux Romains. Parce qu'en fait, l'Épître aux Romains nous montre toute une progression à propos de l'homme, de ce qu'est l'homme.
On
nous parle de la condition des Juifs, des païens, etc.
etc.
Et il est vrai que quand on aborde l'Épître aux Romains comme ça, c'est pas évident. Du début de l'Épître aux Romains jusqu'à la fin, il y a toute une progression. Et Paul, dans les premiers chapitres, montre qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que ce Dieu est vivant. Que les hommes l'ont changé en idole, qu'ils adorent, ils ont adoré la création plutôt que le créateur. Puis après, il va parler du juif. Quel est vraiment un juif? Ce que c'est qu'est réellement un juif, c'est-à-dire quelqu'un qui appartient au peuple de Dieu. Et c'est là où Paul va commencer à parler que le vrai juif, c'est pas celui qui fait des choses extérieures sur une loi. Mais c'est celui qui a vécu quelque chose dans son cœur. Et il va parler du problème du péché. Le chapitre 3 nous en parle particulièrement.
Où
à chaque fois, on voit que tous les hommes sont mis ensemble dans une désobéissance. Ils ont tous péché, nous dit 3:23, et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'il va falloir quelque chose Le péché, c'est la destitution. La destitution de la gloire de Dieu.
L'homme
déchu de la gloire de Dieu ne peut pas avoir accès à la présence de Dieu. Ne peut pas avoir accès au ciel.
Là.
Pourquoi? Parce que l'homme est injuste. Et il va avoir besoin d'être réconcilié avec Dieu et d'être remis dans un état où il va ce qu'on appelle être juste, comme dit la Bible, c'est-à-dire il pourra avoir un accès normal dans la présence de
Dieu.
Et Paul va vous en expliquer un certain nombre de choses.
Et
au chapitre 5, il nous parle de cette réconciliation. Au verset 10, il dit: car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation.
Ngo kandi si byo byonyene kuri 11 ariko ikindi tunezererwa Imana kubwo umwami wacu Yesu Kristo yaduhesheje kuzura nayo.
Donc nous savons que Christ va mourir sur cette croix.
Hano tuzi ko Kristo yapfuye ku musaraba.
Une des grandes solutions qu'il va apporter.
Kimwe mu nyishu yazaniye abana baba.
C'est que le problème du péché.
Nuko hariho ingorane y'icaha.
Le péché amène la mort.
Ingorane y'icaha cyari cyazanye urupfu.
Le péché amène la colère de Dieu.
Urupfu rwazanye kurakigwa ko n'Imana.
Et il faut trouver une solution.
Hakenewe rero inyishu ikura.
Et Dieu pour l'instant,
Imana muri iki gihe
est obligé de condamner l'homme.
Itegerejwe gucira urubanza umwana w'umuntu.
Dans le sens où l'homme qui meurt.
Mwana majambo umuntu apfuye.
Ne peut pas aller au ciel.
Ntashobora kuja mu ijuru.
Même s'il croit en lui,
ariko nimba yizeye,
même s'il fait des sacrifices,
nubwo yoba yizera agakora ibimaze
byose ashobora, il ne peut pas avoir accès au ciel,
ntashobora kwemererwa kuza mu ijuru,
parce qu'il n'est pas réconcilié avec,
kubera atujujwe n'Imana.
Et pendant 4000 ans,
maze imyaka 4000 byose
irahira, le cœur de Dieu était brisé,
umutima w'Imana ubabaye,
parce que il ne pouvait pas encore envoyer son fils.
Kubera atashobora kuru itashobora kurugika umwana wa.
Jésus n'a pas été envoyé à n'importe quel moment dans l'histoire de l'humanité.
Buya Yesu niaje igica ico cyose muri kaise kabana baba.
Loin de là, frères et sœurs.
Kure yivyo.
Ne pensez pas cela.
Suko bimeze.
Dieu d'abord a dû préserver sa connaissance sur la terre.
Ugambere Imana ico yakoze yaragumije ubumenyi bwayo hano
kwisi. Parce que les hommes ont essayé d'éradiquer la connaissance de Dieu sur la terre.
Kuko abantu baragerageje gukura ubumenyi bw'Imana kwisi.
Dieu n'a pas eu une partie de plaisir à envoyer le déluge. Et vous savez que le déluge a éradiqué les quelques peut-être dizaines de milliers d'hommes qu'il y avait à l'époque sur la terre. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y en avait que 8 qui servaient Dieu. Que les autres étaient anti-Dieu. Lorsque Dieu recommence l'histoire de l'humanité avec 8 personnes, parce que je vous rappelle que Noé avait son épouse et ils avaient 3 fils. Et ces 3 fils avaient chacun des femmes. Donc ils ont recommencé à 8. L'histoire de l'humanité. Et vous allez quelques centaines d'années plus tard. On arrive à la tour de Babel. Et qu'est-ce que les hommes veulent faire? Un seul gouvernement réuni en un seul endroit. Où il n'y a pas Dieu dedans. Dieu est obligé de faire quoi? Confondre le langage des hommes. Pour que les hommes se dispersent. Et pour que ceux qui veulent servir Dieu puissent le faire sans avoir les pressions des autres. Ou aller plus loin, que ces gens-là, ceux qui veulent servir Dieu, se fassent assassiner par des païens. Et que la connaissance de Dieu ne continue pas à se perpétrer dans l'histoire de l'humanité. Et là, on commence à voir que les peuples commencent à se disséminer un peu partout sur la terre. Mais c'est très très long. Quand vous étudiez l'histoire de l'humanité et comment les peuplades donc ont commencé à se répandre sur toute la terre.
C'est
un processus qui était extrêmement, extrêmement long.
Et
quand Jésus va venir, on va clôturer par cette idée ici.
Mais
quand Jésus va venir, il va venir à un temps marqué par Dieu. Jésus n'est pas venu. Dieu le Fils ne s'est pas incarné à n'importe quel moment.
Et
il y a eu pas mal de raisons pour cela. Mais le cœur de Dieu était meurtri de voir des êtres humains qui étaient là et qui voulaient en partie servir Dieu, d'autres qui n'avaient pas la connaissance de Dieu. Dieu a dû faire 1950 ans avant la venue de son fils sur la terre, presque 2000 ans avant que Jésus ne vienne. Avec Abraham, Dieu a voulu faire une nation à partir de la descendance
d'Abraham,
parce qu'il voulait qu'il y ait un territoire où il y ait la connaissance de Dieu. Parce que Dieu voulait que sa connaissance soit manifeste sur la terre. Parce que les autres nations, particulièrement alentour dans ce pays et dans ce
coin-là,
ne faisaient que de la sorcellerie et trafiquaient uniquement avec les démons. Donc Dieu a dû attendre. Il a attendu extrêmement longtemps. Il a eu une patience immense. Et un jour, quand les temps étaient marqués par le Père, alors Dieu le Fils est venu s'incarner. Et c'était un temps particulier. Nous verrons en partie pourquoi. Nous en avons en partie la réponse. Mais sachez que la croix n'a pas été un événement comme ça dans l'histoire de l'humanité. La croix n'est pas venue plus tôt ou plus tard.
Elle est
venue à un temps particulier. Nous en verrons certaines raisons qu'on peut déduire facilement, d'autres qui nous seront difficiles à déduire. Mais sachez vraiment que cet événement, c'est particulier.
Que
le Seigneur vous bénisse et on continuera demain.
Enseignemoi.com
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.